Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée. L'hommage de la ville d'Avignon à Éric Masson, tué en intervention avant celui de tous les syndicats de police cet après-midi à 14h avec ses cloches qui ont sonné. Et nous serons sur place et nous serons en ligne avec David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il participe au rassemblement, il sera demain soir à Matignon pour demander une réponse pénale plus forte face à de tels drames. Dans l'actualité, nuit de tension à Fréjus dans le Var avec des vitrines brisées, deux magasins incendiés et trois policiers légèrement blessés par des jets de projectiles. Les héritiers de Mitterrand qui fêtent les 40 ans du 10 mai 81 au Creusot et la gauche qui cherche un nouveau souffle à un an de la présidentielle, nous dira Hélène Terzian. Autre anniversaire ce 9 mai, journée de l'Europe qui fête ses 70 ans. Lancement cet après-midi à Strasbourg de la conférence pour l'avenir de l'Europe et grande consultation via Internet des citoyens européens. L'Europe qui a été mise au défi depuis plus d'un an par la pandémie. On en parlera avec mon invité, l'historien et géographe Sylvain Kahn, grand spécialiste de la construction européenne. L'actualité sportive avec la joie des supporters de Troyes, vous l'entendrez car c'est officiel, leur club sera bien en Ligue 1 l'an prochain. La météo, attention aux érages, nous dira Valérie Darmon, ils arrivent sur le sud-ouest avec 12 départements en vigilance orange des Pyrénées-Atlantiques en remontant vers la Dordogne et la Charente.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est toute une ville qui a rendu hommage ce matin avec ses cloches qui ont sonné et c'est toute une profession qui a rendez-vous à 14h pour rendre hommage à Éric Masson, ce policier tué lors d'une intervention en pleine rue à Avignon. Rassemblement à l'appel de tous les syndicats de policiers alors que le tireur est toujours recherché. Rendez-vous devant le commissariat de la ville où l'émotion reste très vive, Stéphane Frangy.
Oui, comme en témoignent toutes ces attentions qui sont déposées à la mémoire d'Éric Masson devant son commissariat avec de très nombreuses gerbes de fleurs, des couronnes qui sont déposées par les habitants ici devant l'entrée, fleurs déposées solennellement également par des fonctionnaires de police. Les riverains sont très présents depuis tout à l'heure, on les voit se succéder dans un petit flot continu ici pour signer également les deux registres de condoléances qui sont ouverts au public des Avignonnais profondément affectés. C'est le cas de Karen.
On est très touchés par ce drame. On a déposé une rose avec les enfants et on a signé. Il y a une émotion depuis cette horrible tragédie. On habite à côté, on est tous touchés. On voulait présenter nos condoléances à la famille et à la police.
Voilà, et dans l'attente de ce rassemblement, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont sonné à midi. Et voilà, des cierges sont également déposés ici pour former le prénom Éric. Et donc, ce rassemblement silencieux prévu tout à l'heure, il n'y aura ni banderole ni slogan, mais une même émotion avec l'unité affichée des différents syndicats de police.
Stéphane Frangy en direct d'Avignon pour Europe 1. Avec nous, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonjour.
Bonjour.
Vous serez dans une heure et demie devant le commissariat d'Avignon pour rendre hommage à Éric Masson avec tous les autres syndicats de votre profession. Cette unité affichée, c'est à la mesure de l'émotion, voire aussi de la colère au sein de vos rangs et chez vos collègues.
Oui, c'est à la mesure de l'émotion, c'est à la mesure de la colère et c'est surtout un signal très fort puisque ce n'est pas le grade ou la fonction qui est attaquée, c'est le fait de travailler pour l'institution. Il y a deux semaines, c'était une administrative qui était chargée de tâches essentielles d'accueil. Cette fois-ci, c'est Éric Masson qui est sur le terrain, qui est un policier actif. Donc il fallait qu'on représente toute l'institution police, tous ensemble, pour cette journée extrêmement importante pour Éric, pour sa famille et pour la grande maison police nationale.
Vous le dites bien, ce nouveau drame témoigne que ce n'est pas juste le policier qui est visé, mais toute votre profession.
C'est toute notre profession et en plus d'être visés, nous sommes visés pour de l'activité de lutte de la délinquance, mais une lutte ordinaire, j'ai envie de vous dire. Et ce danger-là qui aujourd'hui nous guette au coin de rue pour de vulgaires délinquants, pour protéger peut-être des petits larcins qui sont capables d'en venir à abattre un policier, c'est totalement inacceptable et ça pose effectivement quand même une grande question sur l'efficacité de la chaîne pénale, on en parlera, mais au-delà de la montée de la violence qui se répand dans la société et dont nous sommes le rempart, et il faut nous permettre de rester ce rempart au bénéfice de la population.
Alors justement, David Lebars, cette semaine, Jean Castex a annoncé plus de moyens, 10 millions d'euros. Emmanuel Macron, à qui certains syndicats de policiers avaient reproché son silence, a dit hier qu'il fallait avancer sur la réponse pénale alors que la violence enfle dans la société. Ce sont ses mots. Vous partagez ce constat? C'est ce que vous allez dire demain soir lors du rendez-vous avec notamment le Premier ministre à Matignon?
En ce qui me concerne, je serai très précis, mais avant la réponse pénale, vous savez, il faut que la chaîne pénale fonctionne. Et la chaîne pénale, la police nationale en est un des maillons. Et ensuite, il y a les maillons que sont la justice ou l'administration pénitentiaire ou tous ceux qui œuvrent pour faire en sorte que la peine, si elle doit être dissuasive, elle doit aussi être appliquée et elle doit faire sens.
On entend, David Lebars, que vous demandez une réponse pénale plus forte. Ça veut dire que les magistrats ne sanctionnent pas assez ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre ou que l'arsenal juridique n'est pas adapté?
L'arsenal juridique n'est pas toujours adapté et les magistrats, comme la police nationale, manquent largement de moyens pour faire tourner une justice qui commence aujourd'hui à patiner. Vous savez, en France, il y a beaucoup d'automaticité au bénéfice des délinquants. Il y a des remises de peine, il y a des réductions automatiques, il y a des aménagements de peine. Il y a des automaticités qu'on peut comprendre pour réinsérer dans la société, pourquoi pas. En revanche, ça manque d'automaticité pour ceux qui commettent l'irréparable et l'inacceptable. Il faut parler de sévérité. Et ensuite, il faut donner les moyens à un magistrat. Vous savez, un magistrat du parquet, si dans une journée, il n'a que 10 places de comparution immédiate et qu'il a 200 gardes à vue à traiter sur le département dans lequel il travaille, eh bien, il est déjà contraint en début de journée à faire une garde triage. Et ça implique que cette garde triage, eh bien, on renvoie des gens chez eux qui sont convoqués trop tard, beaucoup trop tard. Et il y a un sentiment d'inefficacité ou de chaîne pénale qui ne fonctionne pas. Et puis aussi, on doit cesser tous les débats qui consisteraient à dire que le temps est long. Tout ça risque de prendre du temps. Justement, les décisions courageuses qui risquent de prendre du temps doivent être actées aujourd'hui parce que le temps, on en a déjà beaucoup perdu. Il faut tout de suite prendre acte, décider et mettre en œuvre des réformes essentielles. Je pense notamment à la réforme du code de procédure pénale, des mesures de simplification pour permettre aux enquêteurs de travailler plus vite, de travailler mieux, tout ça au bénéfice des victimes, quel que soit le quinquennat suivant.
Une dernière question, David Lebars. Ce matin, le père d'Éric Masson, tué à Avignon, témoigne avec beaucoup de dignité dans le journal du dimanche. Il est lui-même un ancien policier. Il insiste bien, nous sommes dans le chagrin, la douleur, respectons notre tranquillité. On sert la République, personne ne doit récupérer ce drame à des fins politiques. Vous partagez son inquiétude?
Je la partage d'autant plus que dans un débat sécuritaire permanent, beaucoup sont tentés de le faire et souvent ceux qui s'approprient ces débats-là rentrent dans des mesures et des annonces qui sont des coups de menton ou des bras musclés. Non, il nous faut pas tout ça. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil et le père d'Éric a parfaitement raison de le dire. Nous irons nous recueillir aujourd'hui pour Éric. C'est une journée d'hommage où la police nationale se rassemble et les discussions stratégiques juridiques se feront demain chez le Premier ministre. Et dans l'intérêt de la police nationale, et si le décès tragique d'Éric doit servir à prendre des mesures, eh bien nous serons satisfaits que cet événement dramatique permette d'enclencher quelque chose. Mais vous savez, il y en a eu beaucoup des événements dramatiques et il n'est pas normal que ce soit les événements dramatiques qui fassent prendre conscience de l'état de la société. Il faut ouvrir les yeux, il faut prendre les mesures nécessaires qui sont celles que la population attend.
Merci beaucoup David Lebars d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française. Merci à vous.
Merci.
Et puis à Fréjus, dans le Var, des policiers ont été la cible de jets projectiles cette nuit alors qu'ils avaient été appelés pour intervenir et qu'une cinquantaine de personnes dégradaient des vitrines. Bilan, 3 voitures brûlées, dont une de la police municipale. 2 commerces incendiés, dont celui de Patrick, gérant d'un magasin de motos.
Il y avait des voitures en feu. En fait, ils ont volé 4, 5 ou 6 véhicules, on ne sait pas trop. Et après, ils ont jeté une poubelle enflammée dans le magasin et ça a mis le feu donc à 28 véhicules, en fait. Moi, j'avais les flammes qui sortaient de mon magasin. Du coup, le magasin est détruit. Ça a esquinté toute la façade de l'immeuble. Là, ça fait 2 mois que ça dure, 2 mois, et le niveau de la violence est en train d'augmenter au fur et à mesure. Donc, on espère qu'il va y avoir quelque chose de fait par les pouvoirs publics parce qu'aujourd'hui, ça devient très, très inquiétant. C'est pas normal que des gens puissent vouloir faire leur loi comme ça. Il faut qu'on apprenne à tous vivre ensemble.
Un témoignage recueilli par Yasmina Katou. Notez que 3 policiers ont été légèrement blessés. Le calme est revenu vers 4h du matin. Et précision de Guillaume Bied, chef du service police-justice d'Europe 1. Et Gérald Darmanin vient d'annoncer l'envoi en renfort de 70 CRS sur place dès ce soir.
Europe Midi.
Fabienne Lemoyle.
La campagne électorale pour les régionales dans le Sud, et il y aura donc normalement une liste menée par Renaud Muselier, une autre par La République En Marche, avec sur cette liste Sophie Cluzel. Au terme d'une semaine pleine de rebondissements, une clarification, vous allez l'entendre, qui n'en est pas une pour Thierry Mariani, tête de liste du RN en PACA, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Renaud Muselier et Christian Estrosi sont prêts à toutes les alliances, à toutes les compromissions, pour sauver leur siège. Je vous rappelle qu'en 2015, ils avaient été sauvés grâce au soutien du Parti Socialiste et de M. Castaner. En 2021, il est clair qu'ils espèrent être sauvés grâce au soutien et au ralliement à En Marche. Et en réalité, on voit que cette position est un peu décidée à la dernière minute. Souvenez-vous quand même de Renaud Muselier, il y a 4 jours avant que M. Castex explique qu'il y a un accord. Il était chez vos confrères en disant « pas d'accord avec En Marche ». 4 jours après, c'est le Premier ministre qui annonce cette alliance. Donc la réalité est simple. Aujourd'hui, M. Muselier est le candidat d'En Marche.
Thierry Mariani, tête de liste du Rassemblement National en région. PACA qui était l'invité d'Europe 1 ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. La préservation de l'environnement sera-t-elle inscrite dans la Constitution comme promis par Emmanuel Macron après la Convention citoyenne, et sous quelle forme y aura-t-il un référendum? Le doute s'installe à un an de la présidentielle. Le temps risque de manquer, même si l'Élysée dit que c'est toujours à l'ordre du jour et que la proposition n'est pas enterrée. Mais donc pas forcément sous la forme d'un référendum, car le texte est bloqué au Sénat. Écoutez la réaction de Grégoire Fatty, il est l'un des 150 membres de la Convention citoyenne. Il espère que le gouvernement va mettre la pression.
Le Sénat était censé voter, mais fait une contre-proposition qui n'a plus aucun sens et qui donc en fait bloquerait ce référendum. C'est plusieurs mots qui changent, et pas les moindres, c'est les verbes d'action qui changent. Nous on parlait de garantir la préservation de l'environnement, de lutter contre le dérèglement climatique, là où le Sénat préfère dire qu'on agit pour l'environnement, qu'on favorise la lutte. Ce que propose le Sénat, c'est de vider la substance, tout ce qui pouvait être engageant dans cette proposition. C'est la droite et le centre sénatorial qui bloquent, c'est pas le président de la République qui bloque. À ce niveau-là, on va dire que l'engagement que m'avait fait le président de la République, les yeux dans les yeux, sur le fait qu'il proposerait ce référendum, oui, cet engagement, il a été tenu. Mais maintenant qu'il est tenu, il va falloir l'assumer jusqu'au bout et le porter jusqu'au bout. Et c'est là où moi je l'attends et où j'attends une partie de la majorité, c'est ne restons pas face à ce blocage et voyons comment continuer à faire avancer ce débat.
Grégoire Fatty, membre de la Convention citoyenne, qui répondait à Johanna Chabas. Il y a 40 ans, 10 mai 1981, pour la première fois, la gauche accédait au pouvoir sous la cinquième avec l'élection de François Mitterrand. Grande réunion aujourd'hui au Creusot des héritiers avec notamment François Hollande, Lionel Jospin. Vous êtes sur place, Hélène Terzian. L'idée aussi, c'est d'essayer de trouver un nouveau souffle pour cette gauche à un an de la présidentielle. Une gauche qui se cherche.
Effectivement, alors pour susciter l'espoir, les héritiers de Mitterrand n'ont pour l'instant pas d'autre choix que d'envoyer une photo de famille unie, celle des compagnons de route de François Mitterrand en mai 1981. Dans son discours inaugural, François Hollande a tenu à adresser derrière cette photo un message aux socialistes.
Pour ce qui concerne la gauche, elle semble même avoir perdu les clés susceptibles d'ouvrir la porte d'un possible et nécessaire redressement. Or, les leçons de François Mitterrand, elles n'ont rien perdu de leur actualité. Il avait compris que ce n'était pas l'union qui faisait la force, mais la force qui faisait l'union.
Allusion non cachée aux divisions qui règnent au sein du Parti Socialiste, la preuve avec l'absence aujourd'hui du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, convié, il a préféré aller marcher cet après-midi à la marche pour le climat. En revanche, la candidate potentielle de la gauche est bel et bien présente, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'inscrit dans l'héritage de François Mitterrand, mais elle insiste sur l'importance du dépassement.
Nous, c'est notre boulot à nous, là, de penser la suite, à nous de l'inventer en toute liberté. Moi, je ne serai jamais de ces hommes ou femmes politiques qui essayent de prendre le costume de quelqu'un d'autre pour se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas du tout.
Une réunion, vous l'entendez, pour unir, commémorer, mais aussi se projeter, poser des bases pour 2022, alors qu'à un an de la présidentielle, dans les derniers sondages, la gauche ne figure pas au second tour.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. L'actualité sportive, et c'est la joie des supporters de Troyes qui vont retrouver la Ligue 1. C'est officiel depuis hier soir après leur victoire sur Dunkerque 2-0. La joie des supporters et les larmes de l'entraîneur de Troyes, Laurent Battle.
Il y a nos meilleurs joueurs qui jouent blessés depuis deux mois. Et on ne dit rien, c'est pas facile. Parce qu'ils ont, donné énormément. Ils ont été extraordinaires. Je n'aurais pas pensé qu'ils puissent élever leur niveau comme ils l'ont fait. C'est grâce à eux aussi si on en est là, parce que c'est eux qui jouent. C'est des larmes de bonheur, c'est des larmes d'une année très longue, parce qu'avec le Covid, ça a été d'une semaine à l'autre, on ne savait pas si on pouvait avoir les joueurs. C'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour vous aussi, mais ça a été difficile pour nous, même si on a la chance de pouvoir faire notre métier, de pouvoir être au quotidien sur le terrain. Mais l'aspect psychologique de la chose, elle a été décuplée, je pense, malgré tout.
L'émotion de l'entraîneur de Troyes, Laurent Battles, au micro de Damien Ardoin. En Ligue 1, la course au titre continue avec la pression sur les épaules du PSG, alors que Lille a conforté sa place de leader. Le PSG qui se déplace à Rennes ce soir. Et puis à 13h, coup d'envoi, Saint-Étienne-Marseille. La prudence reste plus que jamais de mise en montagne, alors que deux avalanches, vous le savez, ont fait 7 morts hier dans les Alpes. Le beau temps, comme nous le dira dans un instant Valérie Darmon, sera encore de mise sur une bonne partie de la France. Et avec lui, le redout. C'est pour cela qu'après le drame d'hier qui a touché sa commune, le maire de Valois appelle à la prudence.
Soyez prudents. La qualité de la neige est très piégeuse parce qu'il est tombé beaucoup de neige différents jours de la semaine en altitude, enfin une neige un peu instable. Ça fait plusieurs fois qu'on a des avalanches qui se déclenchent. Ça peut nous conduire à des drames. Et la meilleure des sécurités, c'est d'éviter de sortir parce que ça va certainement encore bouger. Et j'appelle tous les randonneurs à se rendre sur le site de l'ANENA, l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches, sur lequel il y a des tutos, où il y a beaucoup de conseils sur la randonnée.
Le maire de Valois, Jean-Pierre Rougeau, avec Yasmina Katou. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche. Et les orages au rendez-vous. 12 départements déjà en vigilance orange, Valérie Darmon.
Absolument, Fabienne. Ces 12 départements donc en orange orage jusqu'à 6h demain matin pour les orages, parce que ces alertes vont sans doute évoluer en fonction du vent cette fois. Alors pour le moment, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Hautes-Pyrénées, le Gers, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente et Haute-Vienne vont être balayés par de violents orages. Loire et Haute-Loire sont déjà en orange vent. Dégradation orageuse donc qui progressivement, d'ici la nuit prochaine, va s'étendre à tout l'ouest et au sud de la France. Avec l'arrivée du front froid par l'Atlantique, en ce début d'après-midi, les orages vont se développer sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le Tarn et Garonne, le Lot, le Limousin. Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées, voire le Poitou dans la soirée. Ces premiers orages sont principalement électriques. Le plus gros de la dégradation va se mettre en place en fin d'après-midi, touchant cette fois tout le littoral atlantique jusqu'en Charente. Sous ces orages, il y aura de violentes rafales de vent pouvant atteindre les 120 km/h, voire d'ailleurs plus localement. On a aussi le vent d'Otan qui souffle dans son domaine assez fort jusqu'à 100 km/h sur les hauteurs du Tarn. Et pour le reste de la France, il fait encore beau, mais ça ne va pas durer parce que cette perturbation, elle traverse le pays d'ici demain.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On a bien compris, ça va tonner.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
À suivre, l'Europe fête ce 9 mai, journée de l'Europe, la construction européenne et ses 70 ans à Strasbourg, avec le coup d'envoi cet après-midi de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Une Europe bousculée par la pandémie. On en parle dans un instant avec mon invité Sylvain Kahn, historien, géographe, professeur à Sciences Po et observateur éclairé de cette Europe en mouvement.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
En ce 9 mai, journée de l'Europe, la construction européenne fête ses 70 ans et à Strasbourg sera donné le coup d'envoi cet après-midi de la conférence sur l'avenir de l'Europe en présence d'Emmanuel Macron. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
Historien, géographe, professeur à Sciences Po, observateur éclairé de cette Europe qui a été mise au défi depuis plusieurs mois avec la pandémie, pas mal critiquée aussi. Je pense notamment à l'approvisionnement des vaccins, quand on voit encore hier au sommet de Porto tous les dirigeants européens qui exhortent les États-Unis de livrer leurs doses à une Europe qui pourtant les fabrique en grand nombre. Elle sort comment l'Europe de cette crise sanitaire, alors que va se poser la question du passeport vaccinal aussi dans quelques temps?
Alors, d'abord, la première chose qu'il faut évidemment bien énoncer, c'est qu'elle sort avec beaucoup de morts. Ça reste, je veux dire, quelle que soit la manière dont elle en sort politiquement, si elle est plus intégrée, etc. Bon, l'Europe a quand même été et est toujours, disons, la région du monde, le pays, le métapays hein, qui a été un des foyers de la pandémie. Hein, et ça, ben voilà, hein, ça va rester dans l'histoire. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle en sort, on va dire, plus intégrée. Voilà, c'est-à-dire que les Européens ont été, je crois, très collectivement saisis par ce qui s'est passé quand l'épidémie a commencé à frapper, quand la pandémie a commencé à frapper en Italie. Enfin, on se rappelle tous des images...
Le phénomène de sidération, effectivement.
De sidération à Bergame, les camions militaires qui devaient dégager les corps et les cadavres, on ne savait plus où les enterrer.
Mais justement, est-ce que l'Europe a été à la hauteur de ce qu'elle a dû traverser comme crise ?
Alors moi, il me semble que oui. Alors, évidemment, hein, je dis « il me semble ». Bon,
je reviens sur les vaccins, ouais, parce que forcément, oui, non, bon. C'est ça qui nous interpelle. Puisque on a vu encore, j'avais Marie-Paul Kenny, la présidente du comité vaccin Covid-19, alors, hier à ce micro, qui parlait de ces Américains qui ont dit « America first ». Pas les Européens.
Bien sûr, mais bon, si on prend, prenons les choses une par une, si on prend la réponse, hein, on va dire, aux conséquences économiques et sociales. Bon, là, la réponse est oui, on ne va pas revenir, on ne va pas redétailler à nouveau le fameux plan de relance qui est très important, la mobilisation de la Banque Centrale Européenne qui a évité aux différents États de faire faillite, faire faillite, j'exagère, mais disons, voilà, de soutenir les dispositifs de chômage partiel, d'injecter un certain nombre d'euros, bref, ça c'est très très important. Et au passage, il faut quand même le signaler parce que c'est un objet de débat, les fameux critères de Maastricht ont été suspendus à l'unanimité des États membres. Hein. Bon, voilà.
L'Europe a su s'adapter.
Et ça, ça a été un mouvement collectif des 27 États membres, avec la Commission, le Parlement européen, etc. Bon. La politique sanitaire, évidemment, donc je l'ai rappelé, il y a une grande létalité de l'épidémie en Europe.
Bien sûr.
Bon, voilà. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de systèmes de santé, dans à peu près tous les pays finalement, hein, au moment de la première vague, on a dit en Allemagne on s'en sort mieux qu'en France et en Belgique, certes, bon, puis au moment de la deuxième et la troisième vague, on s'est rendu compte que tout le monde était un peu bousculé et en difficulté, tous les systèmes de santé. Bon, là, on a tous été bousculés, et on s'est rendu compte, petit un, que l'Europe n'avait aucune compétence dans la politique de santé.
Exactement.
Elle n'en avait pas parce que les États européens et peut-être les peuples européens n'en avaient pas envie. Et puis donc tout le monde s'est dit, bah, ça serait peut-être bien du coup qu'on mutualise, qu'on fasse des choses ensemble, comme dans les Trois Mousquetaires, on sera plus fort.
Mais est-ce qu'on a été plus fort justement ?
Oui, on a été plus fort. Clairement, on a été plus fort parce que alors, on aurait pu être encore plus fort.
Oui, je dis ça parce que je sais que vous dites que l'Europe n'a pas forcément été assez agile.
C'est
par
vrai.
Exemple, sur les... Je reviens toujours à ces fameux vaccins.
Mais vous avez raison.
On produit, mais on n'invente pas,
écoutez,
puisque ce sont des Européens. Je pense par exemple au PDG de Moderna, qui est un Français, mais dont l'entreprise est à Boston.
Bien sûr, mais bon. Sur les vaccins, effectivement, on va le dire comme ça. Les choses, c'est pas qu'elles sont nuancées. C'est qu'il y a des choses où les Européens ont été très bons, donc on peut dire « on a été très bons », voilà. Et il y a des choses où on a été effectivement plutôt mauvais, voilà. Alors là où on a été très bons, c'est quand on a décidé, pour la première fois, que on avait fait déjà au mois d'avril avec les masques, on allait se grouper pour précommander ensemble les doses, y compris à des laboratoires dont on ne savait pas encore s'ils arriveraient à produire des vaccins. Il faut quand même bien se rappeler dans quelle situation on était il y a 10 mois. C'était que des paris. Donc les 27 États membres ont dit à la Commission européenne on vous mandate, on vous charge de mener pour nous des négociations. Et ça, je crois qu'objectivement, c'est une réussite, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Bah, certains États qui sont mieux dotés, qui ont plus d'argent, qui ont plus de réseaux, auraient précommandé plein de doses. On aurait été en concurrence entre nous, et du coup on se serait retrouvé dans une situation franchement très très délicate avec, je sais pas moi, les Maltais ou les Estoniens en très grande difficulté. Bon, donc ça c'est le point fort. Le point faible de la manière dont ça a été mis en œuvre par la Commission européenne sur un mandat des 27 États membres, c'est d'abord qu'on a voulu tirer le plus possible les prix vers le bas, d'accord ? C'est ensuite qu'on a voulu se dégager le plus possible, la Commission européenne et les États membres ont voulu le plus possible se dégager d'éventuelles responsabilités juridiques pour d'éventuels, on va dire, effets secondaires ou choses...
Principe de précaution, imprévus. Comme vous dites.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces deux choses, c'est que si on compare aux Britanniques, si on compare aux États-Unis d'Amérique, si on compare aux Israéliens, qui sont les trois pays de l'OCDE, donc comparables aux pays européens, qui, comme chacun le sait, se sont fait livrer beaucoup plus vite, en nombre beaucoup plus grand, et ont vacciné disons, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. Et ben, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'aversion au risque chez les Européens. Parce que quand la Commission... Alors aujourd'hui, on dit c'est commode. Ouais, la Commission, elle a été trop prudente, elle a voulu tirer les prix vers le bas, etc. Mais rappelons-nous dans quelle situation les Européens étaient au mois de novembre dernier. Donc les Européens, c'est-à-dire nous tous. On disait, ah, quand même, il ne faut pas engraisser les entreprises pharmaceutiques qui vont faire d'énormes profits. Et encore aujourd'hui, il y en a qui le disent. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais en tous les cas, dans certains pays, il n'y a pas eu ce type de débat.
D'accord ?
Et par rapport à la responsabilité juridique, bon ben voilà, il y a... Encore une fois, les gouvernements américains, israéliens, britanniques n'ont pas dit « Écoutez, nous, on veut absolument être dégagés de responsabilité. »
Je vais vous poser une dernière question, Sylvain Kahn, puisque vous êtes très bavard et c'est important. Juste une dernière question en quelques mots. Il y a ce problème du divorce, peut-être, avec les citoyens européens. C'est pour ça que je suis sur ces vaccins, effectivement.
Mais je comprends, non, mais vous avez
parce
raison.
Parce que, effectivement, cet après-midi va être lancée, justement, une grande consultation Internet où on va pouvoir dire, nous, citoyens européens, comment je veux mon Europe dans 10 ou 15 ans. C'est ça pour réconcilier ?
Écoutez, moi je ne crois pas que les Européens soient fâchés avec l'UE. Je pense au contraire, mais l'avenir le confirmera ou non, je pense au contraire que les Européens... Il y a une demande sociale d'Europe qui s'est cristallisée ou qui s'est renforcée à l'occasion de cette crise. Parce qu'encore une fois, sur les vaccins, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas qu'on n'aurait pas dû confier, disons, un rôle à l'Union Européenne, on n'aurait pas dû mutualiser les choses. Les Européens aujourd'hui disent que l'Union Européenne aurait dû faire mieux plus vite. Alors, moi, je dis simplement, rappelons-nous qu'encore une fois, en novembre dernier, dans beaucoup de pays européens, il y avait une proportion importante et parfois majoritaire dans les sondages d'opinion de gens qui disaient « Ouh là là, nous, on se méfie des vaccins, on n'a pas forcément envie de se faire vacciner ». Donc moi, il me semble que...
Il ne faut pas que l'Europe soit...
Moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, l'Europe...
La coupable dans cette question-là.
Elle est
question-là.
Le reflet,
elle est
de,
le
ce
reflet
que
de ce que nous sommes.
Et voilà, on a envie d'être... de la jouer plus collective et plus solidaire, eh ben on l'a jouée plus collective et plus solidaire. On est prudent vis-à-vis des vaccins, on se méfie du capitalisme et des bénéfices qui pourraient être faits par des grandes entreprises, peut-être à juste titre. Du coup, la Commission européenne a été prudente, vous voyez, voilà.
Débat.
Alors, donc du coup, on a une Europe qui est comme nous, quoi,
comme
à notre image.
À notre image. Merci
pour le meilleur et pour le pire.
Merci beaucoup, Sylvain Kahn. Très bonne conclusion. Historien, géographe, professeur à Sciences Po. Et je rappelle votre ouvrage « Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 » qui a été vraiment mis au défi, je le disais, avec cette pandémie. Et en cette journée de l'Europe, on pense aussi aux Écossais qui ont été contraints par le Brexit de sortir de l'Union européenne, mais qui affirment à nouveau leur intention d'y revenir. Ce sera le premier sujet des Carnets du Monde dans quelques minutes, Sophie Larmoyer.
Bonjour Fabienne. Et oui, les résultats des élections régionales de jeudi sont tombés hier soir et les partis pro-indépendance obtiennent une majorité confortable à Holyrood, le Parlement écossais. Ils réclament donc un nouveau référendum d'autodétermination. On va écouter les Écossais et décrypter le bras de fer qui s'annonce avec Londres.
Merci Sophie, à tout de suite.